Comme dimanche dernier, l'Évangile nous présente le personnage de Jean-Baptiste. Précurseur de la mission de Jésus, il est une figure de choix pour la préparation des fidèles à la célébration de sa naissance. C'est aujourd'hui, nous entendons deux questions fondamentales. L'une de Jean à Jésus, l'autre de Jésus aux foules qui l'entourent. Ces deux questions concernent l'identité de ces deux personnes. Jésus est celui qui vient. Ou Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert ? À ces deux questions, Jésus répondra et par-delà les contemporains, c'est à nous que ces réponses seront adressées. Tout d'abord, la question de Jean à Jésus. De sa prison, Jean voit ses disciples demander à Jésus « Es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre ?» Toutes nos traductions, depuis le latin de saint Jérôme, disent « Es-tu celui qui doit venir ?» En effet, c'est bien le sens de la formule, mais le texte grec original dit « celui qui vient ». Par référence au psaume « Béni celui qui vient au nom du Seigneur », l'expression « celui qui vient » est un titre messianique. C'est celui des foules enthousiastes au jour des rameaux. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jean fait donc demander à Jésus s'il est le Messie. Cela nous étonne, n'est-ce pas ? N'a-t-il pas proclamé la venue de celui qui vient derrière moi et qui est plus fort que moi ? Nous l'avons entendu dimanche dernier. Oui, mais en même temps, Jésus annonçait quelqu'un qui, dans la ligne des prophètes de l'Ancien Testament, présentait le jugement de Dieu comme assez rigoureux. Jean emploie en effet des images sur ce jugement divin. La cognée qui est prête à abattre les arbres stériles, la pelle avanée qui sépare la paille du bon grain pour la brûler au feu qui ne s'éteint pas. Or, Jésus ne se comporte pas ainsi. Il fait bon accueil aux pécheurs. Il cherche à les aider, à les rencontrer. Il les invite à se convertir. Il pardonne à ceux qui l'ouvrent leur cœur. Alors, se demande Jean, devons-nous en attendre un autre ? L'attente messianique a-t-elle vraiment pris fin ? Il y a en son cœur, nous pouvons le reconnaître, une crise de la foi, mais il veut éclaircir et surmonter cette difficulté. Pour répondre à cette question, Jésus renvoie à son activité qui réalise les promesses messianiques. Guérison des malades, prédication de l'Évangile, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Le Messie ne se signale pas par des événements extraordinaires, un signe du ciel le demandaient certains, mais par sa présence bienfaisante et miséricordieuse. Il faut avoir devant lui cette ouverture du cœur qui accepte ces signes de sa présence et n'exige pas l'extraordinaire. La réponse se termine par une béatitude qui est un avertissement sérieux. Heureux celui pour qui ce ne serait pas une occasion de chute. En effet, devant Jésus, chacun est provoqué à une option. Il faut l'accepter tel qu'il se présente humblement et ne pas trouver de prétexte pour le refuser. Retenons alors l'aspect positif de cette sentence. Heureux celui qui met, qui ouvre son cœur dans la confiance. Et maintenant, la question de Jésus aux foules. Jésus saisit l'occasion du mouvement de foule qui pousse tous ces gens vers Jean-Baptiste pour faire l'éloge de celui-ci. Il souligne que le précurseur n'est ni insignifiant, un roseau agité par le vent, ni un puissant de ce monde, un homme habillé de façon raffinée, mais un prophète et même plus qu'un prophète. Il réalise les annonces prophétiques reprises par Malachie peu de temps avant la venue de Jésus. J'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Jean-Baptiste est celui qui dépasse tous les fidèles de l'ancienne alliance. Personne n'a été plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est-il plus grand que lui ? Est plus grand que lui ? Est-ce que cela veut dire que tous les personnages de l'Ancien Testament ont moins de sainteté que les disciples de la Nouvelle Alliance ? Certainement pas. Il y a certainement des personnages qui ont eu plus de sainteté que selon certains chrétiens moyens. Mais c'est une comparaison entre les deux alliances. Il ne s'agit pas d'une supériorité en sainteté, mais de l'appartenance au royaume apporté par Jésus. Il proclame la grandeur de la nouvelle alliance dont nous sommes heureux de profiter. Cet évangile suscite en nous d'abord une action de grâce. Heureux sommes-nous de vivre notre vie terrestre après la venue de Jésus. De cela, nous rendons grâce non seulement dans notre prière, mais dans toute notre vie. Nous sommes appelés à accueillir toujours plus les bienfaits de grâce que le Seigneur nous apporte. Jésus ne cesse de nous faire signe. Il nous demande de le recevoir, comme le dit ce beau texte de l'Apocalypse. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Alors profitons de ces deux semaines qui nous sépare de Noël pour reprendre nos résolutions de vraie générosité dans la prière, dans le don de nous-mêmes, dans le rayonnement spirituel, dans toutes les circonstances de notre vie. Nous sommes appelés ainsi à être plus fervents. Nous voulons que cette fête de Noël soit pour nous l'occasion de vivre davantage de notre foi dans la confiance et que notre charité fasse l'unité de notre vie. Avec l'Église qui nous invite spécialement ce dimanche à la joie de la proximité de Noël, redisons: dirige notre cœur, notre joie, vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Amen.